41. Ses règlements politiques. Il compléta le Sénat. Il créa de nouveaux patriciens. Il augmenta le nombre des prêteurs, des édiles, des questeurs et des magistrats inférieurs. Il réhabilita des citoyens que les censeurs avaient dépouillés de leur dignité ou que les tribunaux avaient condamnés pour brigue. Il partagea avec le peuple le droit d'élection dans les comices, de sorte qu'à l'exception de ceux qui se présentaient au consulat, les candidats étaient élus moitié par la volonté du peuple, moitié sur la désignation de César. Or, il désignait les siens au moyen de circulaires qu'il envoyait à toutes les tribus et qui contenaient ce peu de mots. César, dictateur, à telle tribu, je vous recommande tel et tel, afin qu'ils tiennent leur dignité de vos suffrages. Il admit aux honneurs également les enfants des proscrits. Il restreignit le pouvoir judiciaire à deux sortes de juges, ceux de l'ordre équestre et ceux de l'ordre sénatorial. Et il supprima les tribuns du trésor qui formaient la troisième. Il fit le recensement du peuple, non de la manière accoutumée, ni dans le lieu ordinaire, mais par quartier, en passant par les propriétaires d'îlots. Le nombre de ceux à qui l'État fournissait du blé fut réduit, de 320 000 à 150 000. Et pour que la formation de ces listes ne pût être à l'avenir l'occasion de nouveaux troubles, il établit qu'avec ceux qui n'y seraient pas encore inscrits, le prêteur pourvoirait chaque année, par la voie du sort, au remplacement de ceux qui seraient morts dans l'intervalle. 42. Ces mesures pour augmenter la population de Rome et éteindre les dettes. 80 000 citoyens furent répartis dans les colonies d'outre-mer. Pour que la population de Rome ne fût point épuisée, César défendit par une loi qu'aucun citoyen au-dessus de 20 et au-dessous de 60, à moins qu'il ne fût sous les drapeaux, resta plus de 3 ans de suite absent de l'Italie. Qu'aucun fils de sénateur entreprit des voyages à l'étranger, si ce n'était pour accepter un général ou un magistrat. Et enfin, que ceux qui élevaient des bestiaux eussent, parmi les bergers, au moins un tiers d'hommes libres en âge de puberté. Il conféra le droit de cité à tous ceux qui pratiquaient la médecine à Rome, qui professaient les arts libéraux. Une telle faveur, devant leur faire aimer davantage le séjour de cette ville et en attirer d'autres encore. Quant aux dettes, au lieu d'en ordonner l'abolition, qui était vivement attendue et réclamée sans cesse, il finit par décréter que les débiteurs satisferaient leurs créanciers suivant l'estimation de leur propriété et conformément au prix de ses biens avant la guerre civile. Que l'on déduirait du principal tout ce qui aurait été payé en argent ou en valeur écrite à titre d'intérêt. Ce règlement anéantissait environ le quart des dettes. César fit dissoudre toutes les associations, hormis celles dont l'institution remontait au premier âge de Rome. Il augmenta les peines rétablies contre les crimes. Comme les riches en commettaient d'autant plus facilement qu'ils en étaient quittes pour s'exiler, sans rien perdre de leur fortune, il ordonna contre les parricides, ainsi que le rapport Cicéron, la confiscation entière et contre les autres criminels, celle de la moitié des biens. 43. Sa sévérité dans la distribution de la justice, ses lois somptuaires. Il rendit la justice avec beaucoup de zèle et de sévérité. Il alla jusqu'à retrancher de l'ordre sénatorial ceux qui étaient convaincus de concussion. Il déclara nul le mariage d'un ancien prêteur qui avait épousé une femme séparée depuis 2 jours seulement d'avec son mari, et cela sans qu'il y eût soupçon d'adultère. Il mit des impôts sur les marchandises étrangères. Il défendit l'usage des litières, des vêtements de pourpre et de perles, excepté à certaines personnes, à certains âges et pour certains jours. Il veilla surtout à l'observation des lois somptuaires, et il envoya dans les marchés des gardes qui saisissaient les denrées défendues et les portaient chez lui. Quelquefois même, des licteurs et des soldats allaient, par son ordre, enlever jusque sur les tables des dîneurs ce qui avait pu échapper à la surveillance de ses gardes. 44. Ses projets, il médite la guerre contre les Parthes. Il avait conçu pour l'embellissement et l'équipement de Rome, pour la sûreté et l'agrandissement de l'Empire, des projets de jour en jour plus fastes et plus nombreux. Il voulait avant tout construire un temple de Mars plus grand qu'un temple de ce monde, en comblant jusqu'au niveau du sol le lac où il avait donné le spectacle d'un combat naval. Il voulait aussi bâtir un immense théâtre au pied du mont Tarpeien. Il voulait condenser le droit civil et renfermer en un très petit nombre de livres ce qu'il y avait de meilleur et d'indispensable dans l'immense et diffuse quantité de lois existantes. Il voulait ouvrir au public des bibliothèques grecques et latines, aussi riches que possible, et confier à Marcus Varron le soin d'acquérir et de classer les livres. Il voulait dessécher les marais pontins, ouvrir une issue aux eaux du lac Fucin, construire une route allant de la mer supérieure au Tibre, en franchissant la crête des Apennins. Il voulait percer l'isthme de Corinthe, il voulait contenir les Daces qui s'étaient répandues dans la Thrace et dans le pont, porter ensuite la guerre chez les Parthes, en passant par l'Arménie mineure, et ne les attaquer en bataille rangée qu'après avoir éprouvé leur force. C'est au milieu de ses travaux et de ses projets que la mort le surprit. Mais avant de parler de sa mort, il ne serait pas inutile de donner une idée succincte de sa figure, de son extérieur, de son habillement et de ses mœurs, ainsi que de ses travaux civils et militaires. 45. Son portrait, son tempérament, ses habitudes. Il avait, dit-on, une haute stature, le teint blanc, les membres bien faits, le visage un peu trop plein, les yeux noirs et vifs, une santé robuste, si ce n'est que dans les derniers temps de sa vie, il était sujet à des syncopes subites et à des terreurs nocturnes qui troublaient son sommeil. Deux fois aussi, il fut atteint d'épilepsie dans l'exercice de ses devoirs publics. Il attachait trop d'importance aux soins de son corps, et non content de se faire tondre et raser de près, il se faisait encore épiler, comme on le lui reprocha. Il supportait très péniblement le désagrément d'être chauve, qu'il exposa maintes fois aux railleries de ses ennemis. Aussi ramenait-il habituellement sur son front ses rares cheveux de derrière. Et, de tous les honneurs que lui décernèrent le peuple et le Sénat, aucun ne lui fut plus agréable que le droit de porter toujours une couronne de laurier. On dit aussi que sa mise était recherchée, et son acticlave gardé de franges qui lui descendait sur les mains. C'était toujours par-dessus ce vêtement qu'il mettait sa ceinture, et il la portait fort lâche, habitude qui fait dire souvent à Sylla, en s'adressant au grand, « Méfiez-vous de ce jeune homme qui met si mal sa ceinture. » 46. Son faste. Il habita d'abord une assez modeste maison dans Subur, mais quand il fut nommé grand pontife, il eut pour demeure un bâtiment de l'État sur la voie sacrée. Il passe pour avoir aimé passionnément le luxe et la magnificence. Il avait fait bâtir sur le territoire d'Aricie une maison de campagne, dont la construction et les ornements lui avaient coûté des sommes énormes. Il la fit, dit-on, jeter à bas, parce qu'elle ne répondait pas entièrement à son attente. Et il n'avait encore qu'une fortune médiocre et des dettes. Dans ses expéditions, il portait avec lui, pour empaver son logement, des carrelages et des pièces de mosaïque. 47. Son goût pour les choses rares. On dit qu'il n'alla en Bretagne que dans l'espoir d'y trouver des perles, que pour comparer la grosseur, il les soupesait parfois dans sa main, qu'il recherchait toujours avec une incroyable avidité les pierres précieuses, les vases ciselés, les statues et les tableaux antiques, qu'il payait un prix exorbitant les esclaves bien faits et bien élevés, et qu'il défendait de porter ses dépenses sur ses livres de compte, tant il en avait honte lui-même. 48. Sa sévérité envers ses esclaves et ses affranchis. Dans les provinces, pour les festins qu'il donnait continuellement, il y avait toujours deux tables, l'une pour ses officiers et pour les Grecs, l'autre pour les Romains et les plus illustres habitants du pays. La discipline domestique était chez lui exacte et sévère, dans les petites choses comme dans les grandes. Il fit mettre au fer un esclave boulanger pour avoir servi à ses convives un autre pain qu'à lui-même. Un de ses affranchis avait commis un adultère avec la femme d'un chevalier romain. César, quoiqu'il l'aimât beaucoup et que personne n'eût porté plainte, le punit du dernier supplice. 49. La corruption de ses mœurs. Sa réputation de sodomite lui vint uniquement de son séjour chez Nicomède, mais il en rejaillit sur lui un opprobre ineffaçable, éternel, et qu'il exposa à une foule de railleries. Je ne rappellerai pas ces vers si connus de Licinius Calvus. Tout ce que posséda jamais la Bithynie et l'amant de César. Je ne citerai pas les discours de Dolabella et de Curion le Père, où César est appelé par le premier « la rivale de la reine, la planche intérieure de la litière royale » et par le second « l'étable de Nicomède » et « le mauvais lieu de Bithynie ». Je ne m'arrêterai pas non plus aux édits de Bibulus contre son collègue. Édits où il le traite de « reine de Bithynie » et lui reproche à la fois son ancien goût pour un roi et son nouveau penchant pour la royauté. Marcus Brutus raconte qu'à cette même époque, un certain Octavius, espèce de fou qui avait le droit de tout dire, donna à Pompée, devant une assemblée nombreuse, le titre de roi et salua César du nom de reine. Memmius lui reproche aussi d'avoir servi Nicomède à table avec d'autres débauchés, et de lui avoir présenté la coupe et le vin devant un grand nombre de convives, parmi lesquels étaient plusieurs négociants romains dont il cite les noms. Cicéron, non content d'avoir écrit dans ses lettres que César fut conduit par des gardes dans la chambre du roi, qu'il s'y coucha, couvert de pourpre sur un lit d'or, et que ce descendant de Vénus prostitua en Bithynie la fleur de son âge, lui dit un jour en face, au milieu du Sénat, où César défendait la cause de Nyssa, fille de Nicomède, et rappelait les obligations qu'il avait à ce roi, « Passons, je vous en prie sur tout cela. On sait trop ce que vous en avez reçu et ce que vous lui avez donné. » Enfin, le jour où il célébra son triomphe sur les Gaules, les soldats, parmi les chansons satiriques dont ils ont coutume de gayer la marche du triomphateur, chantèrent aussi ce couplet fort connu. « César a soumis les Gaules, Nicomède a soumis César. Vous voyez aujourd'hui triompher César qui a soumis les Gaules, mais non point Nicomède qui a soumis César. » 50. Ses adultères à Rome. Une opinion bien établie, c'est qu'il était très porté au plaisir de l'amour et n'y épargnait pas la dépense. Il séduisit un très grand nombre de femmes du premier rang, telles que Postumia, femme de Servius Sulpicius, Lollia, femme d'Aulus Gabinius, et Tertulla, femme de Marcus Crassus. On cite aussi Mucia, femme de Pompée. Ce qu'il y a de certain, c'est que les curions père et fils, et beaucoup d'autres, reprochent à Pompée d'avoir, dans l'intérêt de son ambition, épousé la fille de celui pour qui il avait répudié une femme, qui lui avait donné 3 enfants, de celui que, dans l'amertume de ses regrets, il avait coutume d'appeler un autre Égiste. Mais il n'aima aucune femme autant que Servilia, mère de Marcus Brutus. Il lui donna, pendant son premier consulat, une perle qui lui avait coûté 6 millions de sesterces. Et à l'époque des guerres civiles, outre les riches présents dont il la combla, il lui fit adjuger à vil prix d'immenses domaines, vendus alors aux enchères. Or, comme on s'étonnait de ce bon marché, Cicéron répondit fort plaisamment « Il est d'autant meilleur qu'on a fait déduction du tiers. » On soupçonna en effet Servilia de favoriser elle-même un commerce d'amour entre sa fille Tertia et César.